La Belgique a à nouveau adressé une lettre à la Commission européenne pour demander un délai supplémentaire afin de remettre un projet de plan budgétaire pour 2025. On en parle avec Bruno Coleman, il est économiste et membre de l'Académie royale de Belgique. Il est lui aussi au micro de Blaise van der Linden.
Bruno Coleman, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Vous êtes économiste, membre de l'Académie royale de Belgique. Alors on l'a appris en ce début d'année, la Belgique a une nouvelle fois adressé une lettre à la Commission européenne pour demander un délai supplémentaire afin de remettre un projet de plan budgétaire pour 2025. Concrètement, Bruno Coleman, que cela signifie ?
Mais ça ne signifie pas de grands dangers à court terme. Mais ça montre quand même que la Belgique, comme d'autres pays, la France par exemple, doivent absolument corriger leur trajectoire budgétaire, c'est-à-dire revenir à un certain niveau de déficit acceptable. Et donc la Belgique, comme la France, a demandé un délai de 7 ans. Il y avait le choix entre 4 ans et 7 ans, et la Belgique a demandé 7 ans. Donc ce document aurait dû être rendu déjà il y a bien longtemps. Mais comme en Belgique, et de nouveau comme en France, il n'y a pas de gouvernement stable, ça n'a pas été possible. Donc finalement, ça n'aura pas des conséquences dramatiques, sauf si bien sûr, à la fin du mois de janvier, le gouvernement n'était pas capable d'être formé.
On reviendra sur cette instabilité gouvernementale, mais est-ce que cela veut dire également que la situation budgétaire de la Belgique est inquiétante ?
Non, elle n'est pas inquiétante. C'est vrai que notre déficit est très important, que notre endettement budgétaire, endettement public aussi, mais on est un petit pays dans une grande masse qui s'appelle la zone euro, et donc on n'est pas singularisé. La signature de la Belgique, c'est-à-dire sa qualité de crédit reste excellente, mais bien sûr, tout ça suppose quand même de progressivement reprendre le fil des choses, parce que les finances publiques dans différents pays, dont la Belgique, se sont en fait dégradées lors de la crise du Covid. C'est vrai que l'État a dû intervenir, et que l'État n'a pas repris en main suffisamment rapidement ses finances publiques. Mais ce n'est pas grave, notre taux d'intérêt d'endettement est assez faible, donc on n'est pas du tout en péril. Ce ne serait pas le cas si dans 6 mois, dans 9 mois, il n'y avait pas de gouvernement, mais on n'est pas du tout la Grèce de hier.
Alors justement, cette formation du gouvernement fédéral, Bart De Wever, la semaine dernière, a dit qu'il espérait un gouvernement avant fin janvier. Il a rétropédalé cette semaine en disant que c'était du 50-50. On sait que ce sera un gouvernement qui aura eu une autre vision politique que celui d'avant. Est-ce plus prudent justement de demander un délai à la Commission européenne pour ne pas chambouler le plan budgétaire ?
Oui, de toute façon, ce plan n'aurait de validité et de légitimité qu'avec un nouveau gouvernement. Le gouvernement, maintenant, en affaires courantes, n'a pas la capacité de pouvoir le formuler. Mais il vaut mieux prendre un peu de temps pour faire un gouvernement et avoir quelque chose de solide plutôt que de se précipiter. Et en fait, le grand problème de la Belgique, mais de nouveau comme d'autres pays européens, c'est qu'on doit subir ce qu'on appelle le coût du vieillissement de la population, c'est-à-dire plus de soins médicaux, des retraites, différentes allocations sociales, et qu'on n'a pas été préparé, en fait, à ce choc du coût du vieillissement. Et donc, l'arbitrage, c'est ou bien moins d'avantages sociaux, ou bien un peu plus d'impôts, un peu des deux. Ça demande du temps, ça demande aussi de mesurer à long terme les impacts de toutes les mesures qui vont être prises. Et donc, il vaut mieux attendre quelques semaines d'avoir quelque chose de robuste plutôt que se précipiter. Et je pense qu'entre personnes intelligentes et à l'Europe, il y a des gens intelligents, tout le monde peut comprendre.
Vous parlez du vieillissement de la population. À partir du 1er janvier 2025, l'âge de la pension passe de 65 à 66 ans. Cela peut-il rentrer également dans ce plan budgétaire ?
C'est déjà intégré, mais on vit ce qu'on appelle un papy ou un mamie boom. Vous savez, après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu 20 ans de croissance démographique extrêmement forte. Ces gens sont arrivés à l'âge de la retraite aujourd'hui, mais en plus ils gagnent, ils ont tous gagné, enfin tous ceux qui ont survécu bien sûr, 20 ans d'espérance de vie. Et donc on rentre dans une masse importante de dépenses sociales, très importante. Il n'y a pas de réserve pour ça, parce que ce sont en fait les travailleurs actifs qui payent pour les personnes qui sont inactives. Or, les personnes inactives sont en nombre croissant, et c'est là évidemment toute la difficulté de l'exercice, parce que on doit assurer aux personnes qui sont maintenant inactives un niveau de vie décent, mais on doit pour cela demander aux personnes actives, sans doute, de payer un peu plus d'impôts. Et donc tout l'arbitrage, c'est est-ce qu'on garde tous les avantages sociaux ou un peu moins ? Comment est-ce qu'on arrive à augmenter le taux d'emploi et comment est-ce qu'on arrive à convaincre les personnes qui sont actives maintenant de continuer à financer leurs aînés? Donc c'est une équation vraiment très très compliquée. Tout ça a été prévisible depuis 40 ans, parce qu'on le savait, mais voilà, vous savez, dans le domaine politique, on attend le dernier moment avant de trouver une solution.
C'est donc là-dessus que ça bloque en fait à la formation de l'Arizona sur ce fameux plan économique?
Je crois, parce que le tableau budgétaire n'a pas été stabilisé. D'ailleurs, ça se fait de manière très occulte et sans doute trop occulte. Et on a apparemment remonté le véritable dialogue qui est la fiscalité pour la fin de la négociation. Et ça montre bien qu'il y a un désaccord, parce que certains partis plutôt de gauche ou socio-chrétiens veulent augmenter les impôts, notamment des personnes qui sont les plus fortunées, qui ont plus de revenus, le plus de patrimoine. Par contre, certains partis comme le MR disent, et je peux les comprendre, hein, qu'on paye déjà trop d'impôts en Belgique par rapport à tous les pays du monde, et donc c'est exclu d'augmenter les impôts. Et donc finalement, on a deux blocs de réflexion. Certains disent c'est la croissance de demain qui va financer tout ça, et pas d'impôts maintenant. D'autres disent la croissance de demain ne suffira pas. Donc on doit quand même lever des impôts, et l'arbitrage est situé entre ces deux points extrêmes. Je crois qu'on aura un peu des deux, je crois qu'on aura une baisse des avantages sociaux, ça c'est certain, mais sans doute, malgré ce qui a été promis pendant la campagne, une augmentation des impôts pour les personnes les plus fortunées, enfin ce qu'on appelle les personnes aux épaules les plus larges.
Alors, on parle d'un chiffre entre 22 et 30 milliards d'euros d'efforts sur la législature, ça paraît énorme pour le commun des mortels, mais pour un pays, au final, à l'échelle d'un pays, c'est abordable, non?
C'est totalement abordable, parce que d'abord, il faut diviser ça par 4 ou par 5, hein, donc on parle de 4-5 milliards par an, ce qui fait un tout petit peu moins que 1% du produit intérieur brut, et donc toute la difficulté, c'est de savoir comment on va séparer ce pourcent en moins de dépenses et un peu plus d'impôts, mais on n'est pas du tout dans une situation catastrophique. Si on l'était, on serait incapable d'emprunter de l'argent à l'étranger, ce qui n'est pas le cas du tout. Donc c'est tout à fait abordable, les finances publiques ne sont pas à la dérive. Bon, c'est vrai qu'elles ne sont pas dans un état de santé extraordinaire, mais c'est pas pour autant que la Belgique est en déficit, en difficulté structurelle.
Pour revenir à ce délai demandé à la Commission européenne, quelles pourraient être les conséquences justement à la Commission européenne avec des pays comme la Belgique et la France qui sans cesse demandent des délais?
Ben, la Commission européenne d'abord va accepter, puisqu'on ne peut pas imaginer qu'un pays soit vraiment sacrifié. On sait que la France est la deuxième économie de la zone euro et la Belgique est le réceptacle des institutions européennes, donc on ne peut pas imaginer qu'à un moment il y ait quelque chose de grave qui se passe. De manière tout à fait théorique, parce que ça reste théorique, si le déficit budgétaire structurellement n'était pas corrigé, ça pourrait mener à des sanctions, mais là, ça n'a d'abord jamais été appliqué, et puis on n'imagine pas imposer à un pays des sanctions alors que le pays a déjà du mal à équilibrer ses finances publiques. Donc tout ça est plutôt rhétorique et théorique que pratique. Mais bon, ça montre quand même qu'aujourd'hui en Belgique, le niveau de décision de nos gouvernements est en fait de plus en plus limité, et c'est progressivement l'Europe qui impose ses règles. Ça, c'est le prix à payer pour l'unification monétaire et économique.
Début d'année oblige, Bruno Coleman, a-t-on des prédictions pour l'année 2025 où il faudra coûte que coûte attendre la formation de ce gouvernement Arizona?
Oh, mais je crois qu'au-delà de la formation du gouvernement, les perspectives ne sont pas extraordinaires en Belgique. Hein. On a une zone euro qui est quand même en difficulté. Il suffit de penser à l'Allemagne qui aura un taux de croissance sans doute nul cette année-ci, ce qui n'est quasiment du jamais vu. Et quand l'Allemagne ne va pas bien, tous les pays qui sont ses clients et fournisseurs ne vont pas bien non plus, ce qui veut dire que par un effet de contamination, la France se porte moins bien, la Belgique et même l'Italie du Nord. Et donc, on a trois économies importantes, Allemagne, France et Italie, qui sont sans doute un peu en difficulté, ce qui veut dire que le taux de croissance global de l'économie européenne sera faible, donc sera sans doute faible en Belgique aussi, puisque nous sommes une économie toute petite qui est entourée par ses partenaires économiques.
Bruno Coleman, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Radio Judaïka. Je rappelle que vous êtes économiste, membre de l'Académie royale de Belgique. À bientôt.
Merci beaucoup. Bonne journée.